Le vrai camembert, c'est AOP, au lait cru de Normandie.
J'adore ce côté chlorophylle.
Et il est beau ce veau. Il a fière allure, il a le béret sur la tête.
Europe 1, 11h30.
Un petit trait d'huile d'olive, sel, poivre. Ça, c'est délicieux aussi.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Bien le bonjour les amis, nous sommes ensemble pour profiter des plaisirs de la table jusqu'à midi et demi, hein, vous l'avez entendu, une table généreuse et rassembleuse. Alors dites-moi, le couscous fait partie des plats préférés des Français? Eh bien quels sont, tiens, les secrets d'un vrai couscous? On va faire le tour de la marmite dans un instant. Mes compagnons de la table sont là, élevé au pays du rugby, il met son sens du collectif au service de l'assiette. C'est Yves Candebordes, bonjour Yves.
Bonjour Laurent, au service de la restauration Laurent.
Oui, absolument, et de la restauration française en général, on peut le dire, même on en reparlera, mon commandant. Ce samedi, il va mettre les petits verres dans les grands avec une dégustation de vin digne de ce nom. C'est Olivier Pouls, bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour Yves, bonjour les amis, quel plaisir d'être là.
Bonjour Olivier.
Partagé. Fanny Racle nous rejoint dans un instant avec vos questions et le journal de la cuisine. Et pour finir en beauté, sur les coups de midi, Isabelle Carré viendra partager le plat du jour. Eh bien allons-y gaiement les amis. Eh oui, doucement mais sûrement, nous entrons dans l'automne. On commence à réfléchir aux soupes, aux petits plats mijotés, aux petits rôtis, aux petits farcis de saison.
On monte le chauffage.
Oui, ça commence aussi, oui. Quel est votre goût de la semaine? Tiens, à la maison, en voiture, posez-vous la question. Quel est votre goût de la semaine? Je vous la pose, tiens Yves.
Alors moi, c'est un goût de la semaine qui est puissant parce que c'est un grand coup de gueule. Il y a une psychose qui est en train de s'installer dans le monde de la restauration et beaucoup de collègues restaurateurs ferment par principe de précaution et je ne l'admets pas. Voilà, parce que je pense que les restaurateurs, nous sommes des gens responsables. Nous respectons à la lettre, mais vraiment à la virgule près, toutes les normes sanitaires. On ne met pas en danger une minute nos clients.
Surtout que le protocole a été renforcé en plus.
Le protocole a été renforcé, on l'applique à la lettre, je le redis. Et je trouve inadmissible de fermer. On doit rester ouvert, on doit animer nos quartiers, on doit garder la joie et la bonne humeur. Et faire plaisir à nos clients. C'est d'utilité publique, Laurent.
Bien, on est bien d'accord, parce que certains restaurateurs, peut-être, ont peur de voir un cas de Covid véhiculé dans le restaurant et de se sentir responsable. Mais malheureusement, on le sait, le virus circule malgré les gestes barrières. Mais vous avez raison de le rappeler, les restaurateurs font vraiment les choses dans l'ordre et en respectant le protocole.
Il n'y a vraiment pas de foyer généralisé dans la restauration. Continuons d'aller au restaurant, continuons de prendre du plaisir. Les restaurateurs sont des gens responsables, je leur ai dit. Et un restaurant, la porte doit rester ouverte, c'est
oui,
pas fermé.
Et il y a, je pense, aussi eu un amalgame avec les bars, effectivement, où il y a eu des rassemblements et où dans certains bars, on peut le dire, c'est vrai que les normes n'ont pas été complètement respectées. Donc, le mot du jour, c'est allons au restaurant, les amis, en respectant le protocole et les règles. Votre goût de la semaine, tiens, cher Olivier.
Eh bien, comptez sur moi pour aller au restaurant. Alors moi, mon goût de la semaine, c'est un petit voyage que j'ai fait cette semaine. Je suis allé dans la région de Bordeaux, dans une appellation qui s'appelle le Sauternes. Sauternes, les vins liquoreux. Et c'est une appellation qui souffre beaucoup en ce moment. Il y a une désaffection du public pour ces vins peut-être un peu trop jugés, un peu trop sucrés. Et pourtant, il y a dans cette appellation un savoir-faire, une tradition, un raffinement qui est exceptionnel. Ce sont des vins extrêmement difficiles à faire, qui coûtent beaucoup plus cher à produire que d'autres vins d'ailleurs, et qui, mis à table en dehors du foie gras, par pitié à Noël, évitez ça, peuvent aussi donner naissance à des émotions d'accord mes vins incroyables. J'en ai fait une entre un curry et un vieux château de Fargue. C'était juste divin. Voilà,
curry Sauternes, ah oui, c'est beau ça. Ah,
c'est magnifique parce que l'épice, ce côté un peu puissant d'ailleurs, et peut-être un peu piquant même parfois du curry, est totalement tempéré par la rondeur un peu sucrée de ce vin, c'était magnifique.
Alors on parlait de l'importance et du plaisir d'aller au restaurant, et bien moi mon goût de la semaine il se trouve en Alsace à la Wienstube d'Olivier Nasty, un chef qu'on suit beaucoup ici, qui est déjà venu dans cette émission.
Qu'on embrasse,
embrasse, qui est un chef qui a deux étoiles, mais qui a aussi une Wienstube. Une Wienstube en Alsace, c'est une brasserie où on mange des plats du terroir, des spécialités régional. Et c'est un chasseur, Olivier Nasty, qui cuisine énormément le gibier, qu'il cuisine très très bien. Et j'ai dégusté pour la première fois une souris de chevreuil avec des spätzle. C'était tout simplement divin. Et on parle justement du restaurant et du Covid en ce moment. L'Alsace était énormément touchée au début par le Covid. Je peux vous dire que là-bas, les normes sont respectées et qu'on va au restaurant en toute sérénité, en toute tranquillité. Et que c'est un vrai plaisir et que ça donne du bonheur. C'est comme une belle pièce de théâtre. On retrouve les acteurs et le public. Et bien le restaurant, c'est la même chose. Donc redécouvrons le plaisir du restaurant, en respectant encore une fois les règles, les amis. 11h passées, il est temps d'aller au marché. Les températures sont en train de baisser, on le disait. Alors, quelle recette, tiens, faites-vous pour vous réchauffer? Benjamin Peter, notre correspondant dans la région de Toulouse, vous a tendu le micro sur un très beau marché, le marché d'Albi, dans le Tarn.
Pour l'instant, eh bien, on commence à faire des ragoûts, des soupes, des pot-au-feu, je fais moi.
Alors comment vous le faites, le pot-au-feu?
Vous mettez de la viande de bœuf dedans, des carottes, des poireaux, des oignons avec des clous de girofle, du céleri, en dernier je mets des pommes de terre, du thym, de laurier, et puis voilà quoi. Ah, c'est très bon, ça réchauffe surtout. C'est ce qu'il faut maintenant avec le temps qu'il fait. On rentre dans les légumes d'hiver, là maintenant on y est en plein. On a les clémentines qui commencent à faire son entrée là, avec le raisin, les châtaignes et les potimarrons, voilà, pour faire Halloween bien sûr, et pour faire la soupe.
Ah ben nous on propose du gras double fait maison, qui est de saison avec les pommes de terre. C'est la panse de bœuf, cuisinée avec du vin blanc, sauce tomate, et après on fait un bouillon, courbouillon, aux légumes. Ça, ça fait du bien au moral. Ouais.
Goûtez le muscat, excellent. Ouais.
Excellent. Je fais des haricots, je fais du cassoulet, beaucoup de tomates parce que j'ai des enfants et ils aiment bien ça. Je mets dans des bocaux, je stérilise 20 minutes et
allez, beaucoup. Toute
l'année. Allez, beaucoup. On fait un peu l'écureuil, oui. Arrêtons de pleurnicher, la saison. Vie est belle. Hein.
C'est la saison.
Arrêtons de pleurnicher, la vie est belle. Effectivement, madame, il faut voir les choses aussi du côté positif, vous avez bien raison. Et c'est la saison des sauces tomates. Donc faisons des sauces, il y a encore de belles tomates pour une bonne quinzaine de jours. Là. Donc,
oui, on a, parce qu'étant donné qu'on a eu la chance d'avoir quand même un temps quand même assez clément, on a encore de très très belles tomates, c'est assez surprenant d'ailleurs, mais c'est très agréable.
Alors tiens, à propos de saison, les fromages eux aussi ont la leur, et bien on fait le tour du plateau juste après ça. Bon samedi matin avec nous.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Saint-Nectaire, Reblochon, Fourme d'Ambert, la table des bons vivants est ronde ce matin comme un plateau de fromage. Alors si le printemps et l'été sont les saisons des fromages frais, l'automne nous mène par le bout du nez des fromages affinés. On le sait tous, hein, mais il ne faut pas l'oublier, il y a une saison aussi pour les fromages, Olivier.
Évidemment, puisque en fonction de ce que va manger l'animal, bah, le lait va avoir un goût différent et donc le fromage va avoir un goût différent. Donc il faut toujours se baser sur l'affinage. Quand vous avez un affinage de quelques semaines, voire de quelques mois parfois pour certains fromages, eh bien, bah, vous avez ce temps de décalage entre le moment où il est dans votre assiette et le moment où la vache ou les autres animaux ont
les
été
brebis,
faits.
Les voilà, chèvres, oui.
Et quand c'est du lait d'été ou de printemps, avec de la bonne herbe bien fraîche, des petites fleurs et tout ça, c'est bien meilleur que quand c'est du lait d'hiver ou c'est du fourrage.
Et puis n'hésitons pas à discuter avec nos fromagers aussi, Yves, hein, toujours
pense,
pareil.
Ouais, je pense que c'est le plus important parce que c'est vrai que c'est quand même assez technique, faut le reconnaître, mais c'est toute l'importance d'aller chercher ces fromages chez des professionnels, chez des fromagers qui seront vous guider. N'ayez pas peur de poser des questions. Mon papa me disait une chose, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses stupides.
Oui.
Donc il faut oser poser des questions et je vous promets que le fromager sera toujours très heureux que vous intéressiez à ce qu'il fait.
Il a de belles maximes votre papa, hein. Toujours, j'aime bien ça, il faut se souvenir des maximes de nos anciens qui sont souvent dans la vérité. Hein. Alors justement, Frédéric Michel est allé demander à Jean-Pierre Astor, fromager sur le marché de Fortville à Cannes, de nous faire une sélection des fromages d'octobre. Tendez l'oreille.
En ce moment, on a le Reblochon fermier et le Saint-Nectaire fermier et bien sûr les chèvres du pays. Ah, c'est un chèvre très équilibré, très parfumé. C'est un petit producteur de l'arrière-pays de Peymenade. Alors on a la bûche cendrée, la pyramide cendrée, le style chabichou et le petit frais, le petit affiné. Très goûteux, pas trop salé, onctueux. La matière grasse est au rendez-vous, c'est des très très bons chèvres. Mais après, il y a le Reblochon, c'est un Reblochon fermier de tonne, sélectionné par nos soins. Et comme le Saint-Nectaire fermier, aussi. Une pâte lisse, douce, avec un bel affinage de croûte. Sur un plateau, là, actuellement, je mets bien sûr une pâte molle, style Saint-Nectaire Reblochon, un comté, une pâte cuite, un bleu, j'adore le roquefort, et après deux chèvres du pays. Bien sûr, chaque fromage a une saison, mais après, c'est à nous de prendre aussi des fromages qui sont faits dans les bons mois pour avoir un fromage régulier toute l'année. C'est ça le principe d'un fromager, c'est de sélectionner des fromages à point toute l'année.
Et voilà un beau morceau de Saint-Nectaire. 32 ans de métier, Jean-Pierre Astor. Bravo hein, pour ce beau talent et cette belle passion. Et merci à Frédéric Michel pour ce joli reportage. Merci aussi à tous nos artisans du goût hein, qui continuent de distribuer comme ça du bonheur sur les marchés et puis dans leur commerce. Alors on parlait du Reblochon et de l'appellation fermier, laitier. C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu parfois. On va remettre l'église au centre du village.
Oui, l'appellation fermier, elle est générale pour tous les fromages de France. C'est simplement un agriculteur producteur qui transforme le lait de son troupeau. Il n'y a pas de mélange de lait.
Voilà, voilà. C'est pas une coopérative, c'est pas plusieurs exploitations qui se rassemblent pour faire un fromage. Non, c'est le lait du même troupeau.
Voilà, c'est un vrai gage de qualité. Alors après, il y a des pastilles de caséine qui apparaissent sur les fromages entre le Saint-Nectaire et le Reblochon. Honnêtement, oui. Je trouve que c'est très compliqué parce qu'il y en a une qui est jaune, il y en a une qui est ovale, il y en a une qui est ronde.
Il y en a une qui est verte et rouge. Le Reblochon,
le mieux, confiance une fois de plus à son fromager, pose-lui la question, demande-lui le fromage qui est à point à manger ce jour-là.
Le reblochon fermier, il est vert et le reblochon laitier, il est rouge. Ouais. Voilà, si vous voulez acheter du reblochon ce week-end, les amis. Eh bien, qu'est-ce qu'on boit avec un Saint-Nectaire? Tiens, par exemple, on parlait du Saint-Nectaire,
Olivier. On parlait de pastilles rouges, on boit du vin rouge. En l'occurrence, c'est l'un des rares fromages. Ouais, c'est l'un des rares fromages qui marche très bien avec le vin rouge, donc il faut en profiter. Et même des vins rouges d'un certain âge, parce que la texture du fromage respecte les tanins, donc ça marche.
Alors habituellement, c'est l'heure de retrouver Marion Sauveur, mais elle s'est blessée en cuisinant, notre Marion. Alors on l'embrasse puisqu'elle nous écoute. Et c'est vous, Fanny Rascle, qui avez récolté les questions de nos auditeurs. Bonjour Fanny.
Bonjour la petite troupe, bonjour à tous. Bonjour.
Merci d'être là, on est ravis de vous retrouver. Alors on vous écoute.
Eh bien écoutez, sur la page Facebook des Bons Vivants ou sur le 3921, quand vous avez besoin d'un conseil pour faire vos courses ou d'une astuce en cuisine, vous posez vos questions. Nous sommes là et on commence avec la question de Violaine sur Facebook. Comment cuisiner les marrons entiers? Vous savez ceux qu'on achète cuits déjà en bocaux?
Oui, ou sous vide par exemple. Ah Yves!
Alors moi j'ai un petit dada. J'ai un petit dada avec les marrons, c'est que j'adore, je fais une soupe de marrons et céleri rave. Je trouve ça très équilibré, c'est un mariage de deux saveurs qui s'épousent. Vous prenez un céleri rave que vous coupez épluché, bien sûr, vous coupez en morceaux dans une casserole avec une petite poignée de riz, de l'eau, on fait cuire. Quand le céleri est cuit, on rajoute les marrons en bocaux, on redonne une bonne ébullition, on mixe le tout et là vous avez un velouté de céleri rave et marron. C'est subtil.
Oui, un bel équilibre, parce qu'il y a une fraîcheur dans le céleri qui vient contraster avec un peu, pas la lourdeur, mais le côté sucré.
La rondeur. et on rajoute, Laurent, un peu d'huile de noisette, quelques noisettes torréfiées, et ça vous fait une très belle entrée, voire un plat du soir.
J'achète, monsieur Candebordes. Fanny.
Nouvelle question, cette fois, pomme. Une question pomme, c'est Sabine qui est en Normandie. On écoute.
Bien le bonjour, les bons vivants. J'ai un jardin plein de pommes. Et j'aurais besoin de votre aide pour de nouvelles recettes, salées ou sucrées, car mon mari se désespère de devoir encore manger des compotes et des crumbles aux pommes. Par avance, merci de votre aide.
Ah, c'est bon pourtant les crumbles et les compotes. Vous pouvez les cuisiner en quartier, par exemple, juste poêler dans du beurre pour accompagner un magret, pour accompagner une volaille. Ça marche toujours bien, la pomme en accompagnement. En pâte de fruits aussi, Annie, qui est une de nos auditrices en Normandie, nous a envoyé des pâtes de fruits qui sont délicieuses. Là, faites un peu comme ça avec une compote de pommes, c'est très bon ça.
Alors moi j'ai une petite recette très simple. Le micro-ondes, vous évidez votre pomme simplement sans l'éplucher, vous faites que l'évider et vous la passez au micro-ondes pendant 2-3 minutes et servi avec un morceau de reblochon. On parlait de fromage.
Ah,
le chaud de la pomme, le reblochon posé dessus qui va légèrement fondre et ça vous fait un pseudo-dessert fromage qui est très facile à réaliser et qui est très agréable.
Ouais, c'est vrai que le fromage et la pomme, ça marche bien. Eh bien, merci Fanny. Et on peut continuer à poser des questions, évidemment.
Oui, sur le répondeur, le 3921 avec 50 centimes par minute. Sur Twitter, sur Facebook, vous êtes désormais plus de 20 000 à nous suivre sur le groupe des Bons Vivants. Oui. Et puis, vous le savez, on a lancé une nouvelle newsletter autour de la cuisine. C'est gratuit pour s'abonner et c'est une mine de conseils et de recettes.
Mais qu'est-ce que vous le dites bien ? Vous restez avec nous, Fanny Rascle. On se retrouve dans un instant pour votre journal de la cuisine. Ne bougez pas, chers auditeurs. On vous emmènera aussi à l'opéra pour boire, manger, chanter avec Verdi. Elle est pas belle la vie ? À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Quels sont les secrets d'un bon couscous ? Voilà une vraie question les amis, nous sommes d'accord. Hein.
Ah, c'est surtout si on peut le manger.
On va le manger. Dans un instant, Nordine Labiade, le chef du restaurant à mi-chemin à Paris, sera avec nous et il va nous donner ses astuces pour réussir un vrai couscous à la maison. Mais avant, c'est l'heure de votre journal de la cuisine, Fanny. Voici les titres. La solidarité qui s'organise après la tempête Alex, l'agriculture bio qui recrute et les clichés gastronomiques de la dernière série Netflix. Votre menu du journal de la cuisine. Après le passage de la tempête Alex qui a ravagé notamment la vallée de la Roya, la solidarité s'organise.
Oui, d'abord pour les sinistrés à Saint-Martin-Vésubie, les deux épiceries ont été inondées. C'est donc le boulanger qui distribue gratuitement une baguette par foyer. À Nice, son confrère Frédéric Roy a décidé lui de fabriquer un pain de mie spécial qui se garde une semaine, lui aussi, pour le distribuer dans les vallées sinistrées aux alentours. Et puis, on pense aux restaurateurs de la région, évidemment. Ils sont déjà très en difficulté avec le coronavirus, sont désormais à genoux. Emmanuel Macron a annoncé un fonds de 100 millions d'euros. Ça concerne tous les secteurs d'activité, toutes les infrastructures aussi. Il y a vraiment urgence.
On pense vraiment à tous les habitants de cette vallée de la Vésubie, de la Roya. On pense énormément et fort à eux. Et puis, on remercie ces artisans du goût aussi qui se mobilisent pour donner à manger, justement, aux sinistrés de cette magnifique région. Voilà. Et on vient vous voir régulièrement, c'est vrai, avec notre correspondant Frédéric Michel, donc on pense bien à vous. Le secteur de l'agriculture biologique embauche, Fanny.
Oui, plus nous achetons du bio, plus le secteur crée des emplois, ça se confirme. Selon le Commissariat au développement durable, la part des emplois dans les exploitations spécifiquement en agriculture biologique est passée de 3 à 13%. Ça représente désormais plus de 100 000 postes à temps plein.
Et puis cette déception gastronomique, alors là, Netflix nous ment dans sa dernière série, mais qu'est-ce que j'apprends ?
Oui, elle s'appelle Emily in Paris et les scénaristes américains enchaînent les clichés sur la France. On dirait qu'on se nourrit de croissants et de vin blanc. Mais moi, je croyais au moins que ça ferait venir des touristes étrangers qu'ils pourraient pousser en vrai la porte du bistrot Les Deux Compères, comme dans la série. Eh bien, c'est raté. Il suffit de regarder sur la carte, c'est une trattoria italienne à la place.
Eh bien, merci Fanny Rascle pour ce journal de la cuisine et à bientôt. Vous avez votre ronde serviette, vous le savez ici. Hein.
À très vite, avec plaisir.
Merci Fanny.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Vous le savez, hein, la culture et la cuisine font bon ménage. Alors, démonstration aujourd'hui avec les opéras de Verdi. Le compositeur, vous le savez, a popularisé, ça va vous plaire Olivier, le genre des chansons à boire.
Évidemment,
il
Aïda.
Est né un 10 octobre, comme aujourd'hui, c'était en 1813, c'est l'anniversaire donc de sa naissance. Et Giuseppe Verdi était fils d'aubergiste, amoureux de la bonne chère et de la musique. Et c'est vrai qu'on le disait, tous ses opéras sont traversés par des scènes de banquet. Il aimait faire manger, boire et chanter ses troupes sur les planches. Alors Julien Amat a rencontré Albert Bensoussan, universitaire et biographe de Verdi. Il nous raconte comment Verdi a enivré l'opéra. Écoutez, c'est passionnant.
Bonjour.
Bonjour Albert.
Bonjour Julien.
Écoutez, je suis accueilli comme un roi chez vous. Là devant nous, on a un plateau de charcuterie. D'où elles viennent ?
Eh bien, j'ai essayé d'imaginer ce que Verdi, qui est un fin gourmet, un grand mangeur, ce qu'il pouvait manger et boire dans sa région de Busseto, qui se trouve près de Parme. Alors, vous avez du prosciutto di Parma, le jambon de Parme, vous avez la coppa. J'ai une bouteille de Lambrusco frizzante, c'est le vin typique d'Émilie-Romagne. La boisson, dans l'opéra de Verdi, c'est devenu presque une tradition, dans la mesure où il a créé un genre qui s'appelle brindisi. C'est l'exaltation du plaisir et de la joie. De boire et de chanter. Alors, dans la Traviata, c'est une cocotte, une dame galante, elle a des amants, tout ça, et elle fait une soirée chez elle. Et ils ont tous des bouteilles de champagne, et on boit, et on boit. Et alors là, ils disent « Nibbiamo nelieti calici ».« Viviamo, viviamo nelieti calici ». Libiam, c'est léger avec la bouche, libiam, on sent les lèvres. Alors, il a créé ce genre, brindisi. Et on va le trouver dans, pas seulement chez lui, mais ça a voyagé. Et par exemple, il y a un opéra français d'Ambroise Thomas, qui était une vedette de l'Opéra de Paris, en 1868, Hamlet. Et Hamlet, il y a un air très célèbre, « Le vin dissipe la tristesse qui pèse sur mon cœur, à moi les rêves de l'ivresse et le rire moqueur ». Ensuite, il y a Offenbach, il y a des tas d'opéras, il y a Strauss, la chauve-souris, on boit énormément dans la chauve-souris. Voilà, oh là là. Tenez votre verre. Dans les contes d'Hoffmann, on dit glou, 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 quatre fois.
Bah, vous venez justement de remplir mon verre, je propose qu'on trinque à Verdi.
Je vais bien Yves chanter du Verdi.
Mais ah moi aussi. Moi, je vais me mettre à l'opéra du coup.
Ah, on est d'accord.
Ah ben, c'est une promotion pour l'opéra exceptionnelle.
Merci Albert Bensoussan, merci Julien Amat. Voilà un très très joli reportage, ça fait du bien. Et puis, ça n'a rien à voir avec l'opéra bouffe, hein. C'est le brindisi, comme disait Albert Bensoussan. Et la Traviata, d'ailleurs, qui sera rejouée dès la mi-novembre à l'Opéra Bastille à Paris. C'est vraiment l'opéra le plus joué dans le monde. Hein. C'est la Traviata. On a entendu un petit air. Ne bougez pas, on va continuer avec les jolies douceurs. Isabelle Carré se rapproche. Elle sera avec nous dans un instant. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Il figure chaque année dans le classement des plats préférés des Français, entre la blanquette et les moules frites. Le couscous est devenu un plat national, économique et rassembleur. Quels sont les secrets d'un bon couscous ? Eh bien, prenez-en de la graine, chers auditeurs. Notre invité, le chef Nordine Labiade, va tout nous dire. Bonjour Nordine.
Bonjour Laurent.
Ravi de vous recevoir à cette table. Vous venez de sortir un très joli livre qui s'appelle « Couscous pour tous » aux éditions Solar. On va rentrer dans le vif du sujet, dans les détails. On va vous donner, chers auditeurs, les secrets pour réussir un bon couscous. Et vous êtes le chef du restaurant à mi-chemin, à Paris, dans le 14e arrondissement. Vous êtes né en Tunisie, vous êtes arrivé à Paris, vous aviez une vingtaine d'années, c'est ça, Nordine ?
Voilà, j'ai arrivé en 2000, le 31 décembre 1999.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, le couscous ?
C'est toute mon histoire, c'est la seule chose que je vais partager avec les gens que j'aime. Et maintenant, heureusement, je partage avec tout le monde presque.
Alors, votre restaurant est un restaurant de cuisine française avec des inspirations d'Afrique du Nord. Mais au début, vous ne vouliez pas servir de couscous, c'est vrai ça ?
Oui, au début, je ne servais pas de couscous. Et après, je voulais mettre le couscous à la carte, un plat comme un autre. À côté des riz de veau, du rognon, du Saint-Jacques, il y avait le couscous. Et là, je voulais lui rendre hommage, je ne voulais pas m'arrêter au couscous. Malgré que c'est un plat...
Ce sont vos racines. Il ressemblait à quoi le couscous de votre enfance, de vos parents ?
Il ressemble à ce couscous qu'Yves est en train de déguster.
Il m'a balancé.
Il a commencé. Alors, on va le décrire, tiens, ce couscous, parce qu'il est beau. Là, se moule, évidemment.
Le couscous, il n'y a pas un couscous unique. Le couscous, ça rassemble aux saisons. Après, il va rassembler au terroir. Et après, il va rassembler à l'événement. Pourquoi ce jour-là, le couscous des fêtes, ce n'est pas le couscous du travail, le couscous des cérémonies, du deuil, le couscous de la fin de l'année. Tous les couscous, ils ne sont pas un.
Alors qu'est-ce qu'il veut dire celui-ci ? Parce qu'elle a une belle semoule qui est bien cuisinée, qui est bien égrenée. Je vois qu'il y a du fenouil, de la carotte, de l'agneau.
On est en mi-saison. Il y a un bon agneau de Lozère. Il y a les piturons qui se croisent avec les courgettes. Et encore les céleris et un couscous, ils rassemblent aux saisons et au terroir et au jour.
C'est un plat ancien, hein, le couscous. À quoi il ressemblait le premier couscous ? On sait, on a des traces de ça ?
Les premiers couscous, on a trouvé dans les ruines romaines de passoires en terre percée. Les premiers couscous, c'est des blés juste concassés et cuits vapeur. Et après, quand on a commencé à moudre le blé... C'est devenu de la poudre, on faisait des pains, on faisait de la polenta, des blés le matin, et on a reconstruit la graine, on a roulé la graine pour retrouver la graine mère.
Oui, et puis c'est du berbère, hein, le mot couscous, ça vient du berbère, ça veut dire arrondi et roulé, en fait,
voilà,
bien roulé.
Couscous, c'est bien roulé, c'est les kisses, c'est rouler la graine, et c'était le plat unique du Maghreb.
Il est arrivé dans les années 60, en même temps que le rock'n'roll, on peut dire ça, Olivier. Hein,
oui, je peux parler la bouche pleine, oui, parce que j'ai commencé à le manger aussi.
C'est la seule émission où
vous pouvez. Il est vraiment très bon.
Hein. Il est très très bon.
Oui, oui, ben, les années 60, évidemment, c'est le retour des pieds noirs d'Algérie, hein, l'exode de 62. Et le couscous, en fait, était un plat qui permettait à ces gens de se retrouver, parce qu'ils avaient été disséminés un peu partout. Et on faisait un couscous, on invitait tout le monde, et il y a ce côté... évidemment éminemment convivial, et c'est ce qui a probablement popularisé le couscous en France. C'était le moment de le manger. Et puis après, bah évidemment, vous avez, en France, on l'a adapté aussi, hein, ce qu'on appelle nous le couscous royal. C'est une invention purement française, ça n'existe pas à l'origine.
Couscous royal, il est français, même la graine à part, la sauce, les légumes. Et on a adapté le couscous à l'art des tables françaises, que je trouve très très bien.
Parce que normalement, effectivement, au Maghreb, on sert tout dans la même assiette et dans le même plat. Nous, on le fait un peu dissocié, on met la semoule à côté, oui, le bouillon et les légumes, et les viandes, c'est ça en fait. Hein.
Et les viandes à part, mais le couscous de mon enfance, on met la graine... On met les légumes, la viande, on arrose et on laisse reposer comme un poulet rôti. On laisse reposer une quinzaine de minutes et après on va déguster et on va servir. Chacun y pousse un morceau à l'autre. Et le convivialité est dans la marmite. Presque.
C'est le vrai plat de partage. C'est pas pour rien qu'il fait partie des plats préférés des Français. Yves, tiens, vous, le champion de la bistronomie, est-ce que vous êtes attaqué au couscous ?
Oui, oui, je me suis attaqué au couscous. Je dirais, je l'ai fait, les premiers plats de couscous que j'ai fait, je les ai fait au crayon avec Christian Constant. Après, moi, le couscous, moi, je l'ai surtout mangé en tant qu'enfant, pour la bonne et simple raison que papa avait compris quelque chose. Une fois de plus, papa, aujourd'hui, ça fait deux fois que je parle de papa.
C'est la fête des pères,
non,
c'est
mais
beau.
C'était un moyen de faire manger des légumes aux enfants. Parce que c'est vrai que c'est un plat qui est chaleureux, c'est un plat qui est onctueux, qui est doux, où il y a ce mélange entre la viande et le côté végétal du légume. C'était un moyen de me faire manger des carottes, c'était un moyen de me faire manger des potirons. Pas c'était le couscous, le plat familial, le plat de partage. C'est pour moi l'éducation du goût.
Et puis c'est vrai que vous parlez de l'onctuosité et puis du côté homogène du couscous. Il y a les quatre éléments qui sont présents dans le couscous. On va en parler avec vous, Nordine. Ne bougez pas, hein, chers auditeurs. Quels sont les secrets d'un bon couscous ? On continue d'en parler avec Nordine Labiade et on sort le couscoussier juste après ça. On va parler de la semoule, des légumes et des viandes.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous sommes réunis ce matin autour d'un magnifique couscous avec Nordine Labiade, le chef du restaurant à mi-chemin à Paris, dans le 14e arrondissement. Je peux vous dire que ça, c'est un moment de partage comme on les aime à la table des bons vivants.
Et ça attire un peu de monde, hein, vous
ça
voyez.
Ça attire du monde. Ouais. Constance Banquet, la patronne d'Europe 1, par l'odeur alléchée du couscous
c'est
de la
bizarre.
Et peut-être du petit vin rouge qui est là. nous rejoint à cette table. Bonjour Constance Banquier.
Bonjour Laurent Mariotte.
Bienvenue, vous êtes ici chez vous, vous savez.
Non mais, de venir ici, c'est mon bonheur.
Alors Couscous pour tous est sorti aux éditions Solar, c'est votre livre. Nordine, on parlait du couscoussier tout à l'heure. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un couscoussier pour réussir son couscous? Parce que tous nos auditeurs n'en ont pas un.
La cuisine, ça s'arrête à un couscoussier. Il n'y a pas de cuisine, il y a un couscoussier. Et donc, on faisait tout avec. On cuit les œufs, on réchauffe vapeur. La marmite, ça sert pour du bouillon, pour du soupe, pour les pâtes. Et la couscoussier, c'était la cuisine. Et ça monte aux époques des Romains où il y avait les parties hautes, la couscoussière en terre, trouée avec la pique des palmes, et en bas, le chaudron. Il y a une règle pour réussir son couscous aussi, de ne pas mettre trop de bouillon, sinon la semoule en haut, elle colle, elle fait un pansement,
elle va être imbibée,
et les vapeurs, elle ne va pas monter en surface.
Donc la réponse est oui, il faut un couscoussier, vous nous dites.
C'est les premières cuisseurs vapeurs au monde, donc il faut les garder.
Mais on peut l'utiliser pour plein de choses d'ailleurs, aujourd'hui. Hein.
Oui, on réchauffe des pains un peu secs.
Alors dans votre livre, vous donnez les secrets pour réussir vraiment toutes les étapes, la semoule, le bouillon, les légumes. Commençons par la semoule, le choix de la semoule, quel type de cuisson pour réussir sa semoule à la maison. Dites-nous tout.
Avant, on roule la semoule le jour même et on fait des réserves. En printemps, on va les sécher aussi.
On la roule avec un petit peu d'eau alors, c'est ça?
C'est poudre, on va le rouler avec de l'eau salée et un pincé de curcuma. Et on les fait sécher sur des draps, sur les toits de maison. On a notre réserve pour 4-6 mois. Mais maintenant, heureusement, grâce aux industriels qui ont facilité la tâche, tant mieux. Et on a un couscous semi-prêt qui est très bon et ça va nous encourager à faire le couscous.
Alors, un mot sur la réussite du bouillon. Ça, c'est très important. Le bouillon traditionnel, on va le dire, avec les légumes. Quelles sont les composantes du bouillon? Quels sont les aromates qui vont donner cette épaisseur, ce corps et puis ces petits yeux comme ça à la surface?
Le début de réaliser un couscous, c'est le plus important. Il faut bien revenir son tomate frais ou de concentré de tomate à l'huile d'olive. Pas le caraméliser, pas le colorer, mais il faut bien revenir, enlever l'acidité dans l'huile d'olive, rajouter la viande, et après rajouter les épices et laisser tout ça mariner, pas mouiller tout de suite, mais enlever toute cette acidité au début. Après, mouiller légèrement à niveau de la viande et laisser 5-7 minutes que la viande imprègne des épices. Et après, les légumes, les céleris, l'oignon. L'oignon, c'est vraiment... Un légume basique, c'est le roi des couscous.
Et ensuite, on ajoute l'eau, en fait. Alors,
on rajoute l'eau, on mouille, et après, on va mettre nos légumes par étapes. On va mettre la saison des navets carottes au début, après, on peut mettre les céleris, et après, on finit avec tout ce qui est courge, pétiron, pané, sommet, des fenouilles. Tout ça, c'est à la fin.
Comme un pot-au-feu en fait, hein, c'est la même technique.
Comme un pot-au-feu, c'est ce que j'ai pensé en rajoutant les épices.
Constance Banquier, vous la patronne du couscous, vous qui aimez, qui ne vous nourrissez que de couscous, on peut le dire aujourd'hui. Oui, justement, ce sont vos belles origines. Racontez-nous un petit peu comment vous le trouvez celui-ci.
Alors, il y a un truc extraordinaire avec la semoule de Nordine, on dirait des paillettes.
C'est vrai.
Non mais c'est vous voyez, bonne nuit les petits, pof le marchand de sable.
Ça vole,
ça vole. C'est magique, c'est poétique, c'est très très bon. Alors moi j'ai rajouté un tout petit peu. Parce que je suis un peu privilégiée, j'ai rajouté un tout petit peu de harissa.
Ah, la harissa,
parce que Nordine, c'est le roi de la harissa. Il faut aussi qu'il nous donne la recette de la harissa.
La harissa, c'est des piments comme les piments du Pays Basque, les piments de Spelette séchés, qu'on va les humidifier un nuit dans l'eau. Après, on va les bien égoutter et on va les pâcher à la hachoire à main qui est accrochée à la table.
Ouais.
C'est mieux. 3 gousses d'ail. Un bon huile d'olive et un peu de ras el hanout légèrement.
C'est un mélange d'épices, voilà.
Ah oui. Les piments séchés qu'on les a trempés une nuit, qu'on a fait notre harissa. Et ça existe, la harissa fraîche aussi. Pendant la saison des piments, on va choisir les piments les plus dorés, les plus jaunes, qui commencent à être un peu vers le rouge et le jaune. Et on va, dans une mortier, l'écraser. Harissa, ça veut dire écraser, c'est la racine des mots. Mais celle-là, on va les consommer dans les 2 jours, on peut les garder au frigo. C'est une harissa fraîche aussi.
Et ben voilà, le couscous, le bouillon, les viandes, on sait tout. Et on retrouve toutes vos belles recettes dans Couscous pour tous, un beau livre de référence. Merci Nordine d'être venue. Et on vous retrouve à mi-chemin, votre
même
restaurant
temps
dans le 14e arrondissement.
On fait emporter maintenant pour au bureau, à la maison.
Exactement.
Réserver ces bons couscous.
C'est né pendant le confinement, le couscous
confinement.
Emporté d'à mi-chemin. Merci Nordine Labiade.
Et merci pour ce vin que vous nous avez apporté aussi en accompagnement du couscous, un vin du Languedoc. C'est vrai qu'il faut un vin de chaleur, il faut un vin de soleil pour accompagner ce plat. les mille vignes, la cuvée idyllique qui fonctionne admirablement avec votre couscous.
C'est ce que je propose sur mon couscous, il faut avoir les Méditerranées au moins en bouche.
Eh ben voilà.
Ne bougez pas, on revient dans un instant avec le plat du jour, une belle cocotte de lotte avec des courgettes et des figues. Encore à manger, un plat qui prendra moins de 20 minutes de cuisson. Bon samedi midi sur Europe 1 et bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire. Bientôt midi les amis, c'est l'heure d'accueillir notre invité, le hussard sur le toit, la femme défendue, l'envol du théâtre au cinéma. Avec elle, on aime se souvenir des belles choses. Romancière également avec son deuxième livre, elle est aussi sur scène aux côtés de Bernard Campan actuellement dans l'excellente pièce La Dégustation. Elle vient se mettre à table avec nous pour notre plus grand plaisir, c'est Isabelle Carré notre invitée. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Ravie de vous recevoir.
Et moi donc.
Vous devriez être remboursé par la Sécu actuellement parce que vous jouez avec Bernard Campan dans une pièce que j'ai eu la chance de voir il y a quelques jours qui s'appelle La Dégustation au Théâtre de la Renaissance à Paris, qui se passe chez un caviste. Donc il faut absolument que vous alliez voir cette pièce.
Ah oui, c'est pour vous.
Olivier
ah bah oui.
Pouls, hein, ça c'est pour vous. Une très belle rencontre entre un caviste un petit peu ronchon et vous, Hortense.
Un caviste n'est jamais ronchon.
Jamais, bah, celui-ci un petit peu. Et Hortense, jouée par Isabelle Carré. Une vieille fille qui va peut-être rencontrer de jolies choses. Hein.
Ah oui, il y a baleine sous caillou très vite hein, entre eux, mais ils sont tous les deux assez timides, assez réservés, et puis ils ont des secrets aussi. Le personnage que joue Bernard Campan notamment a quelques secrets. Le personnage que joue Mounir Amamra, Steve, va les aider. C'est un petit peu notre lion, celui qui va nous aider à aller plus loin.
Un jeune homme qui arrive après un cambriolage dans la boutique d'à côté et qui se retrouve avec vous chez le
embauché,
caviste.
Embauché grâce à moi chez le caviste. C'est vraiment une pièce sur les secondes chances pour le travail, dans la société, mais aussi en amour.
On rit énormément, on est ému aussi, on est beaucoup ému. Il y a un petit côté Woody Allen, je trouve, parce que ça joue sur plein de ressorts et plein de sentiments. Et cette pièce, elle fait un bien fou. Je vous ai vu le 24 septembre, vous avez repris le 22. Et il y avait une communion entre le public qui était là, masqué comme au restaurant, en respectant le protocole, et vous, les acteurs, très émus sur scène
au moment
des saluts.
C'est comme ça tous les soirs. Là, ça fait quelques temps qu'on joue déjà. Et tous les soirs, on est émerveillés de voir cet appétit des spectateurs à rire, à être avec nous, à écouter la pièce, à cette communion en fait. Et on avait déjà eu beaucoup de plaisir à jouer cette pièce parce qu'elle a gagné le Molière de la meilleure comédie
Absolument.
En 2019. On était très heureux de la reprendre, mais là, ça a tout son sens. J'ai jamais été blasée sur scène, mais je sais pas comment dire. Là, il y a vraiment une saveur particulière. On se sent vraiment utile. Nous, les comédiens, on a l'impression qu'on fait vraiment du bien aux gens. Ils nous le disent, ils nous le rendent. Et du coup, ben, on repart avec des petites ailes, quoi. Les uns et les autres. On sort avec le sourire.
Quel est votre goût de la semaine, Isabelle Carré? Parce qu'on s'est renseigné, vous aimez bien manger, même si vous ne cuisinez pas énormément. Mais en tout cas, vous êtes une gourmande.
Ben, je cuisine très très mal et j'apprécie d'autant plus la cuisine des autres. Et j'avais envie de vous parler de Japon. D'un magasin qui s'appelle le magasin des mochi.
Ah oui.
Voilà et
les petites douceurs japonaises.
Voilà
avec
et en pâte de riz, un peu à des guimauves, enfin en pâte de riz comme ça. Alors ça peut être au haricot rouge ou ça peut être au thé vert. J'en ai même goûté au chocolat blanc. Assez
c'est
surprenant.
Très, il y en a avec du sésame,
bon.
Une pâte de sésame. Ouais. C'est très très bon ça, les mochis.
Ça
c'est
me fait
vrai
saliver,
que
là, rien que d'en parler.
Il y a un petit côté régressif et délicieux.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu une transmission chez vous, dans votre famille, au niveau de la cuisine et des recettes?
Alors comment dire, oui, dans le mauvais sens du terme.
Eh bien, on a la réponse justement avec Yves Courdebord qui a pensé à vous et qui va vous donner des astuces pour cuisiner sans avoir l'impression de cuisiner et sans s'y connaître en cuisine. C'est bien ça, Yves.
C'est une rubrique pour moi alors.
C'est pour vous.
Oui, c'est parce que je pense que c'est pas parce qu'on sait pas cuisiner, je dirais, en profondeur qu'on ne peut pas bien manger. Voilà, il y a la fameuse aujourd'hui cuisine d'assemblage qui en fin de compte est simplement une cuisine de produits. Voilà, prendre des bons produits et simplement de les assembler en plus à un temps toujours très restreint. Qui n'impose pas une longue présence en cuisine. Et il y a moyen de faire des choses très étonnantes en mariant les produits de saison.
Ah bah alors on vous écoute, c'est l'automne justement, les champignons, les poires, les fromages à pâte persillée.
Eh bien on va prendre les poires avec du fromage, avec un roquefort, quelque chose de très basique qu'on trouve très facilement dans tout le commerce. Vous prenez une poire, vous la coupez en tranches, une tranche assez épaisse d'un centimètre, on la pose dans une poêle. Là, jusqu'à maintenant, ça va aller.
Ça va aller, là, ouais, je vais m'en sortir.
On va avec juste une petite pointe d'huile d'olive, on va la laisser caraméliser, la tourner sur l'autre face. On va la cuire à peine une minute. Après, on dépose dessus des petits morceaux de roquefort. On va recouvrir l'ensemble avec une tranche de jambon. Voilà, un bon jambon blanc qui est acheté à la tranche chez le charcutier. On va laisser tiédir. et ça vous fait un petit plat original.
Ah oui, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas... Je vais essayer. Je sens bien là.
Et ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde.
C'est inratable.
Ça me fait juste penser à la spécialité de mon père. C'était les tomates à la provençale. Ça consistait à couper des tomates en deux, les mettre d'un côté et de l'autre, de casser des œufs et de mettre des herbes de Provence. Sauf que les tomates n'étaient pas cuites et les œufs étaient durs.
Ah oui, non, alors ça oui, voilà, il faut s'accorder sur les degrés de cuisson quand même. Il y a
voilà.
Des petites règles.
Donc ça se trouve, votre recette, ça va donner ça. Je vais essayer quand même, j'ai une minute.
Et une autre recette.
Une recette, une salade de pâtes. Prends une casserole d'eau, on fait bouillir. On prend par personne 100 grammes de pâtes complètes. Pour 100 grammes de pâtes complètes, on va prendre un légume, on va mettre autant de pâtes que de légumes. C'est-à-dire que là, je vais prendre des carottes, on a des superbes carottes un peu de couleurs différentes en ce moment.
Comment, râper ?
Non, couper en morceaux,
en
assez
morceaux.
Gros.
D'accord.
Quand mon au bout, je mets mes pâtes et mes carottes directement en même temps dans ma casserole. On compte pour une pâte complète entre 7 et 8 minutes de cuisson. On va les égoutter dans une passoire. On ne les rafraîchit surtout pas. On les met dans un saladier. On va rajouter une herbe. Moi, j'aime bien la coriandre.
Aussi.
Un beau trait d'huile d'olive. Et après, une petite graine, soit une graine de tournesol, soit une graine de sésame ou un pavot. On mélange l'ensemble, une petite olive noire en plus, et on a une superbe pâte.
C'est beau, à l'oriental.
Ouais. À l'oriental.
Eh oui.
Voilà, très simple.
Bah voilà.
Ouais.
C'est beau.
Ça demande un seul élément de cuisson, ça se fait en moins de 10 minutes, et on a un plat cuisiné par soi-même qui est bon et qui est sain.
Et bon, vous mettrez les recettes sur europe1.fr. Merci Yves Candebord, la poire,
quand
le jambon.
J'entends Yves, j'y crois,
On veut les photos, vous nous envoyez les photos, Isabelle Carré. Hein. Vous les faites à la maison et on veut voir les photos et on les mettra sur le groupe Facebook des bons vivants. Chiche, une des deux.
Okay.
D'accord. Hein. Très bien. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant, les amis, avec le plat du jour. On va continuer de manger avec une recette ultra simple que vous pourrez refaire ce week-end. Ce sera juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. A tout de suite avec Isabelle Carré. Vous écoutez Europe 1, il est midi. Les titres d'Europe Midi, Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. À la une du journal de la mi-journée, 4 nouvelles villes en alerte maximale depuis ce matin pour freiner les contaminations. Alors qu'on a enregistré un nouveau record de cas positifs au coronavirus hier, 20 339 cas en 24 heures. Ces 4 villes, ce sont Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Étienne où les bars sont désormais fermés et où les universités ne peuvent plus accueillir que la moitié des étudiants. Nous ferons le point sur les mesures de restriction avec Pierre Herbulot. Nous irons aussi à l'hôpital de Nantes où les syndicats sont inquiets car des soignants continuent à travailler bien qu'ils aient été testés positifs au coronavirus. Cela avait déjà été le cas lors de la première vague dans plusieurs services hospitaliers, mais pour les syndicats, cela témoigne du fait que l'hôpital manque de personnel. Hier, le président du conseil scientifique disait que la Covid-19 est un virus des villes, mais quels prix vont payer les campagnes entre les jeunes victimes de la fracture numérique et le mythe de la ruralité enchantée. Salomé Berlux, président de Chemin d'Avenir qui milite depuis des années pour faire sortir de l'ombre les enfants oubliés de la République qui vivent en zone rurale, sera mon invité. Toujours dans le journal de la mi-journée, Donald Trump qui repart en campagne dès aujourd'hui à la Maison-Blanche avant un meeting lundi en Floride. L'actualité sportive avec une finale d'âme totalement inédite à Roland-Garros. L'américaine Sofia Kenin, récente vainqueur de l'Open d'Australie face à la polonaise Iga Świątek. Début de la rencontre à 15h que vous pourrez suivre dans les flashs avec Corinne Boulou. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Cette semaine, je vous emmène au cœur des vallées meurtries de la Vésubie et de la Roya dans l'arrière-pays niçois. Nathalie Chevance et Johanna Chabas ont rencontré des rescapés qui ont parfois tout perdu, mais des rescapés qui leur ont aussi livré de vraies leçons de vie. Jean-Jacques Héry, lui, nous racontera sa marche de 5 heures pour rejoindre le fond de la vallée, escorté par des habitants. 5 heures à pied, car par endroit, il n'y a plus ni route ni train. 12h02 sur Europe 1, je vous laisse en compagnie de Laurent Mariotte.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Moi, je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14, bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1.
Moi, je vais prendre la brioche perdue.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Un plateau de fromage d'automne, des verres à pied pour trinquer à la mémoire de Verdi, un couscoussier pour une couscous partie. On en a posé des choses hein, sur la table depuis 11h et nous revoilà avec Isabelle Carré. Soyez les bienvenus hein, si vous nous rejoignez. Isabelle, tout se passe bien ?
Ah bah moi, je suis bien là.
On vient de me servir deux verres de vin.
Pour une petite dégustation tout à l'heure. Les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls seront consacrées justement à une dégustation de vin, parce que votre pièce s'appelle La Dégustation.
Et oui.
Vous la jouez actuellement au Théâtre de la Renaissance à Paris. C'est
on
un
va
succès.
Voir si c'est un rôle de composition.
C'est un triomphe. Et on verra.
Oh, la pression, Olivier.
Effectivement. Alors, vous êtes romancière aussi, Isabelle Carré.
Et oui, depuis quelques années maintenant, 5 ans maintenant. Je me suis remis à écrire. J'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune. Puis j'ai arrêté vers l'âge de 30-35 ans parce que ce métier de comédienne me convenait et permettait d'exprimer tout ce que j'avais exprimé. Mais l'écriture me manquait quand même. Je suis bien contente d'y être revenue.
Du côté des Indiens, c'est votre dernier roman paru chez Grasset. Un roman sur la fin de l'insouciance. Hein. On va dire que c'est l'histoire de Zayad, un petit garçon de 10 ans qui va passer de l'enfance à l'âge adulte après avoir découvert le secret de son père.
Et... Oui, c'est un petit peu La vie devant soi de Romain Gary. Enfin, en tout cas, le personnage de Zayad ressemble un petit peu à Momo, même si Muriel, la voisine du 5e, ne ressemble pas à Madame Rosa. C'est l'histoire de 4 personnages. Il y a 4 points de vue, donc on s'encadrille. Chaque partie adopte le point de vue de chacun des personnages. Donc ce petit garçon Ziad de 10 ans, la voisine Muriel, Bertrand, le père, et enfin Anne, la mère, qui est la dernière à prendre la parole, qui est la partie la plus onirique, la plus romanesque de ce roman.
Vous aimez écrire, vous êtes une grande lectrice aussi, hein, Isabelle.
J'avoue, oui, j'ai une lectrice compulsive.
Grande bibliothèque.
Compulsive.
Est-ce qu'il vous arrive de manger en lisant? Est-ce qu'on peut faire les
Absolument.
Deux?
Absolument. Le midi, c'est ce que je fais tout le temps, en fait, quand je ne suis pas avec quelqu'un, évidemment, parce que ça serait très impoli. Excuse-moi, j'ai un roman à terminer. On se parle au dessert. Non, non. Je lis quand je suis toute seule, mais j'adore aller dans un restaurant accompagnée d'un beau roman. Et de lire entre les plats, c'est très agréable.
C'est vrai que...
Eh ben, j'ai croisé... lui, au moins, ne doit pas mettre le masque.
J'ai croisé Bernard Campan dans mon quartier l'autre jour en train de manger et de lire un roman, justement. Je n'ai pas vu si c'était le vôtre, je voulais regarder, mais je n'ai pas voulu trop insister. Mais c'est vrai qu'on voit des gens comme ça manger et lire en même temps. Et c'est vrai qu'on est heureux pour eux. C'est une belle pause.
C'est mieux que de regarder la télé.
Déjeuner, exactement. Une recette, tiens, encore une que vous pourrez refaire dès ce soir, les amis. C'est notre plat du jour. On va faire une lotte cuisinée en cocotte avec des légumes de saison. Vous nous avez dit que vous n'aimiez pas les choses compliquées en cuisine, Isabelle Carré.
Hein. Oh bah si c'est pas moi qui les fais, c'est pas moi qui m'y colle.
Non mais là l'idée, c'est qu'on vous aide à cuisiner quand même, hein. C'est que vous puissiez reproduire
les
recettes
que
vous y mettiez. Alors on va écouter tiens, la recette d'Emmanuel Coury, qui est le chef du restaurant Les Climats à Paris. C'est un jeune chef, hein. Il a une trentaine d'années. Il a appris le métier aux côtés de Philippe Etchebest, Yannick Aleno, Pierre Gagnère. Et il a mis au point une recette pendant le confinement, justement, pour faire manger du poisson à ses filles. C'est une lotte cuisinée en cocotte avec des légumes de saison, écoutez.
C'est une recette qui se fait en quasi 10-15 minutes. Quoi. On va prendre notre cocotte et on va tout cuisiner dedans en fait. Hein. Il y a peu d'ingrédients, donc on a les courgettes, les figues, notre poisson, du citron, des oignons nouveaux et de la verveine. On va assaisonner la queue de lotte avec un peu de sel, un peu de poivre. Et là on va la travailler en fait comme un rôti un peu. Quoi. On va la cuisiner vraiment comme un rôti. Donc il faut compter 2 minutes de chaque côté. Donc là pendant que la lotte est en train de dorer, on peut tailler nos légumes. Là on taille nos courgettes, donc je les ai coupées en deux et ensuite je les ai émincées en petits triangles. On fait quelques rondelles de citron menton. Une fois qu'on aura une belle coloration, on va rajouter nos légumes, nos herbes fraîches. Donc là on va couvrir et puis je vais l'enfourner dans un four à 180 degrés. Moi j'aime bien cette idée d'avoir un plat au milieu de la table qu'on puisse partager tous ensemble. Voilà. 10 minutes plus tard on ressort la queue de lotte. Ouais donc là notre lotte est bien dorée, on a nos légumes qui vont être juste fondants. Moi, pour contrôler la cuisson, une aiguille métallique que je vais planter dedans. En fait, si on sent plus de résistance en fait, du poisson, c'est que le poisson est cuit. Hein. Une pointe de couteau, ça marche très bien. Ouais. Comme quand on contrôle la cuisson d'un gâteau, c'est un peu le même principe. Donc à ce moment-là, je vais rajouter mes quartiers de figues qui prennent la température, mais sans les cuire finalement. C'est que des produits frais, odorants, la verveine, tout ça. Donc c'est vraiment un plat, on pose sur la table. Et le défi aussi, c'était de mes filles, de leur faire manger du poisson, des choses différentes.
C'est bon.
Ça
se
prépare
à
l'intérieur. Il y a peu de vaisselle, exactement. Ouais, c'est bien pratique à la maison. Merci Emmanuel Coury. Et vous le dites, c'est vrai, c'est un plat très odorant. Là, on l'a avec nous dans le studio. C'est très très bon et on a la confirmation, Yves, que c'est un poisson qui se cuisine comme une viande, comme vous disiez.
C'est exactement ça. Quand on voit l'aspect, c'est particulièrement une tranche de viande. On a ce côté translucide de la lotte parce qu'elle a été cuite, comme on dit, à l'os. Et c'est vrai que c'est un plat qui est qui est magnifique. Mais moi, je me pose une vraie question, Laurent.
Oui.
Je me demande si à la maison, des fois, c'est pas meilleur qu'au restaurant.
Non, mais parce vous que dit ça. Non,
mais il l'a déjà dit pendant le confinement. Il l'a déjà dit.
C'est de l'instantané. Mmh. C'est cuisiné dans une cocotte
minutes.
Et tout cuisiné ensemble et on sert. C'est pas un assemblage de dernière minute.
Mais oui, mais en restaurant, ça, c'est compliqué de faire ça aussi en termes de mise en place. C'est ça le problème.
C'est très
ou alors, faut un tout petit restaurant. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle, alors?
J'adore les saveurs qu'il y a. La verveine, c'est ça. Il y a de la verveine.
Ouais, exactement.
C'est bon.
Oui, c'est très très bon.
Et ça cuit vite. 10 minutes de cuisson maximum. Et les légumes taillés finement vont permettre justement d'avoir cette cuisson rapide aussi.
Cette cuisson rapide. Puis après, Laurent, aussi, peut-être, je dirais, c'est peut-être pas académique parce que la cuisson des légumes, mais l'oignon est un peu croquant, le courgette est peut-être un peu trop cuit, mais c'est pas grave.
Il y a de la vie.
Il y a de la vie. Voilà, il y a de l'onctuosité et c'est ça qui est bon. C'est pas parfait, mais en bouche, c'est parfait.
Isabelle ?
Je suis d'accord.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls ?
Ben là, j'ai une vision, voyez-vous. Je verrais bien un vin avec un tout petit peu de rondeur parce que le plat est assez généreux aussi. Et je me dirigerais bien vers l'Alsace et, vous savez, un pinot gris, mais pas complètement sec.
Ah,
très légèrement.
Pas complètement gris.
Un pinot gris, bien gris, mais pas complètement sec. C'est pas grave s'il y a quelques grammes de sucre résiduel parce que ça va avec cette générosité, la figue qui rapporte ce sucre et cette générosité.
Eh bien, on prend.
Moi, j'aime vos visions, Olivier.
Ouais, moi aussi. C'est de la poésie. Hein.
Isabelle Carré, vous êtes à l'affiche de l'excellente pièce, on le disait, La Dégustation au Théâtre de la Renaissance. Eh bien, Olivier, vous allez nous apprendre à déguster le vin, justement, comme dans la pièce, juste après ça.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Elle termine sa dernière bouchée d'une belle lotte en cocotte. Isabelle Carré est avec nous. À l'affiche actuellement, on le disait, de la dégustation au Théâtre de la Renaissance. Une pièce d'Ivan Calderac avec Bernard Campan et trois autres comédiens qui sont formidables aussi, Isabelle, à vos
Éric
côtés.
Éric Gélard, Olivier Clavery et Mounira Mamra. On s'adore. On est vraiment les cinq doigts de la main.
Ça se sent. Ça sent. Il y a une belle communion sur scène.
Oui, j'ai une théorie là-dessus. Je crois que ça se voit pas quand les acteurs s'entendent pas parce qu'on fait le job.
Oui.
Mais quand on s'entend vraiment comme c'est le cas là, il y a cette petite étincelle qui fait qu'on a envie de nous rejoindre sur scène. Les spectateurs nous le disent qu'ils ont envie de nous rejoindre sur scène.
Ça transpire.
Pour déguster avec nous.
Et bien justement, alors sur scène, vous dégustez, et c'est ça qui est formidable dans cette pièce, parce que, je le redis, vous jouez le rôle d'Hortense, une jeune demoiselle un peu vieille fille, on va dire, qui rentre...
Oui, qui n'a pas encore trouvé l'amour, qui est un petit peu en désir d'enfant aussi, et qui va jeter son dévolu sur Jacques, qui est un peu un ermite qui vit dans sa grotte avec ses bouteille de vin, et elle va le bousculer un petit peu, aidée par Steve, le personnage que joue Mounir Amamra, et cette dégustation, car on le sait, in vinos veritas.
Eh bien oui, exactement.
Le vin nous aide.
Le vin nous aide bien, et il y a une très belle scène de dégustation, justement, entre vous et Bernard Campan, et puis les autres comédiens, et on sent qu'il se passe des choses, justement, autour du verre. Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec vous, Olivier. Vous allez nous aider à savoir déguster, parce que c'est vrai qu'on le sait tous, le vocabulaire du vin est parfois un petit peu intimidant, le langage des sommeliers
poétique,
également. Poétique aussi, mais intimidant parfois quand on n'y connaît rien et qu'on a envie justement de faire ses premiers pas dans le vin.
Oui,
et
puis il faut se laisser aller surtout, je pense que c'est ça qui est important. Finalement, on est là pour prendre du plaisir, on n'est pas là pour s'embêter. Donc il faut laisser aller ses sens et moi je vais vous proposer ce qu'on appelle dans le milieu professionnel une dégustation à l'aveugle. Alors, c'est un truc amusant que chacun peut faire chez soi, vous cachez la bouteille et puis vous allez demander aux gens de... Alors, trouver le nom du vin, du producteur, le millésime, c'est parfois un petit peu compliqué. C'est même
juste
très
savoir
compliqué.
Si c'est un Bordeaux ou un Bourgogne, déjà.
C'est déjà pas mal. Un blanc ou un rouge, vrai. Mais là, je vous aide parce que vous les voyez dans les verres. Mais vous savez, parfois, on peut s'y faire prendre. L'idée, c'est de faire tomber tous les préjugés qu'on peut avoir et c'est d'aller chercher, d'aller puiser dans notre répertoire quelques arômes. Je vous ai donc mis un verre de vin blanc et un verre de vin rouge. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc, comme dans la pièce, je vous demandais d'abord de commencer par le vin blanc.
Et il y a trois étapes. Alors, il y a l'œil, le nez et la bouche.
Évidemment, tout ça va vous donner des indices. La couleur du vin. Alors, un vin blanc, au plus il est clair, en général, au plus il est jeune. Les vieux vins blancs vont tirer vers des notes de vieil or, d'un jaune un peu plus passé. Là, je pense qu'on sera d'accord pour dire que le vin blanc est assez brillant. C'est une couleur d'un jaune assez éclatant encore.
Il brille bien, hein, il a un bel éclat, il donne envie.
Ouais.
C'est mes répliques. Ah,
c'est bien. Voilà, répétez pour ce soir.
En fait, je n'ai pas besoin d'inventer un dialogue. Je l'ai déjà
génial.
Grâce à Ivan Calberac. Je peux vous répondre avec les dialogues d'Ivan Calberac.
Ben, on va essayer si ça marche. Alors, je vais vous donner deux, trois indices. Hein. C'est un vin, ce qu'on appelle un monocépage. Il y a un seul cépage qui constitue ce vin. Ce n'est pas un assemblage, donc ce n'est pas trop compliqué. C'est une région française assez connue. Et ne sais pas si vous captez ce côté très floral qu'on a dès le nez.
Fleur blanche même.
Très fleur blanche, une petite pointe de violette aussi.
Oui.
Et cette petite note un peu violette.
Maintenant qu'il le dit, oui, mais avant c'est compliqué.
Oui, c'est ça.
Hein. Et cette petite note un peu violette, elle est assez caractéristique du cépage.
Goûtons, non ?
Oui, goûtez, bien sûr. Alors, deuxième étape, évidemment. Deuxième étape, on le sent. Et troisième étape, on le goûte.
On le fait tourner en bouche.
On le fait tourner en bouche, on l'aère.
On est où ? On est en Touraine, on est en Alsace, on est en Bourgogne.
Beaucoup de saveurs.
Je dis qu'on n'est pas en Alsace.
Très floral.
On n'est pas en Alsace.
Non, c'est pas de l'Alsace.
Non, c'est chaud. Moi, je pense que c'est un peu plus chaud.
Ouais. Alors, on descendrait vers le Languedoc.
Yves commence à s'approcher un petit peu.
Vers le Roussillon.
Pas aussi bas. Alors, on est dans la vallée du Rhône. Et le cépage dont il s'agit, c'est le Viognier. Le cépage c'est le cépage de l'appellation Condrieu, par
exemple. C'est le plus vieux cépage, d'ailleurs.
C'est un très vieux cépage. C'est un cépage qui est de temps en temps assemblé, mais là qu'on a pur.
Ah oui, maintenant
que
vous le dites.
C'est un Viognier avec, voilà, ces notes très caractéristiques de fruits, de fleurs et de violette.
Ouais.
Et d'un bel équilibre en plus, parce que parfois le Viognier, ça peut être un petit peu lourd. Là, ce n'est pas le cas.
On peut voir l'étiquette alors ?
Ben, bien sûr, là, je découvre et je vous montre l'étiquette, un Viognier du domaine Stéphane Montez.
Ah oui, très bien.
En colline rhodanienne. Alors, deuxième exercice, on est parti sur le rouge.
Ah ben, allons-y, absolument.
Alors là, c'est un assemblage. Donc, il y a plusieurs cépages qui composent ce vin. C'est très classique.
Oh là. Ah oui, là. Alors là, c'est un petit peu poivré, épicé.
C'est très classique.
Voilà, on a ce côté un peu épice. On a un côté fruit rouge aussi. Et ça, c'est vraiment un vin très classique.
C'est encore Côte du Rhône ou est-ce qu'on descend ?
Non, pas du tout. Alors là, on a changé complètement de région.
Bordeaux ?
Ah ben, une bonne réponse de la part d'Isabelle Carré, gagnée.
T'as eu ?
Et voilà,
dis donc.
Tac.
Bravo.
Comme quoi, à force de déguster tous les soirs sur cette
Mais moi, j'ai fait la route des vins de Bordeaux.
Et ben voilà.
Ah ben ça aide.
Quand j'étais plus jeune.
Et ben, c'est un vin de Saint-Estèphe, c'est un château de Pèze, millésime 2016, qui est un millésime assez chaud. Et donc, on a cette belle richesse et tout à fait les caractéristiques d'un grand vin de Bordeaux.
Mais bravo. Bravo, dites donc Isabelle
Carré. Félicitations. Carré.
Très très jolie dégustation.
Qu'est-ce que j'ai gagné ?
Eh bien, la bouteille,
bah,
au moins.
On va voir, on va vous trouver caisses, quelque chose.
Pas mal du tout. Hein.
Vous allez repartir avec des bouteilles. Très non, bon. Mais sérieux, on a une petite cave spéciale Bon Vivant pour nos invités qui se tiennent bien à table.
Alors, j'ai pas perdu ma journée.
On a quelques échantillons pour vous que vous pourrez déguster ce soir sur la scène du Théâtre de la Renaissance.
Avec mes camarades.
Mais qu'est-ce que vous buvez ? C'est du jus de fruits, évidemment, sur le...
Voilà, alors de temps en temps, je ne vais pas vous mentir, de temps en temps, on s'offre une vraie dégustation.
Ah.
Mais étant donné que c'est mon personnage qui boit le plus,
c'est ça.
C'est moi qui morfe le plus. Donc je ripe de temps en temps. Si vous me voyez riper, c'est que ce soir-là, on a sorti des vrais vins.
C'était pas du jus de cassis.
C'est pas du jus de cassis, oui.
Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Isabelle Carré, après cette dégustation, est-ce que vous êtes prête à passer sur le grill des bons vivants ?
Avec joie.
On va vous découvrir de l'autre côté de la fourchette, encore plus. À tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie de l'émission en compagnie d'Isabelle Carré avec mes bons vivants toujours présents, Yves Candebord et Olivier Pouls. Ma chère Isabelle, vous êtes sur scène actuellement à Paris, mais il y a une terre à laquelle vous êtes très attachée, c'est celle du Pays Basque. Qu'est-ce que vous aimez sur cette terre ?
À tout. L'identité culturelle, la langue, l'architecture et évidemment la nourriture, on ne va pas se le cacher. C'est une nourriture qui a emprunté beaucoup à l'Espagne. Et j'adore aller dans les bars à tapas, j'adore manger des piquillos farcis.
Quelles sont vos adresses ?
Tiens, j'aime beaucoup un restaurant de poisson qui s'appelle Arantzaleak.
Oui, on en parle souvent ici, chez Ramuncho.
C'est le temple.
Oui. J'adore,
c'est une auberge de poisson, voilà.
Ah oui, et puis j'adore aller chez Pablo pour l'ambiance.
Ouais. Alors oui,
et la cuisine de famille.
Derrière les Halles.
C'est
chipirons farcis à l'encre, magnifique.
Hein. Magnifique.
Voilà.
Et
ils les
d'accord.
font tous les matins, ils farcissent les chipirons à eux-mêmes en fait. Hein. Et avec
et
de
sa brandade de morue aussi est dingue. Et je pourrais dire tout quoi, enfin, toute sa carte est dingue.
Vous aimez les tapas, lesquels sont vos préférés ?
Ah bah j'aime bien moi quand il y a évidemment du foie gras, parce qu'on est dans la région du foie gras, donc les tapas au foie gras avec un bon verre d'Irouligui.
Ah voilà, le rouge basque.
Bah oui.
C'est ça, vous êtes adopté là-bas maintenant.
Irouligui.
Irouligui, oui c'est vrai qu'il faut le dire comme ça, oui.
Et puis Irouligui du domaine Arrechia. Attention,
Arrechia.
Eh bien c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Isabelle Carré. Tiens, quel est le goût de votre enfance, Isabelle ?
Les tartines grillées avec du beurre salé et des grosses barres de chocolat poulain.
Oh là là, ça va parler à beaucoup d'auditeurs. Ça,
chocolat
parce que...
qui fond un peu.
Ah oui, oui, par-dessus, ça c'est bon ça.
Mais bon, il y a aussi les œufs à la coque avec les mouillettes. Hein.
Un grand classique aussi,
avec le
c'est
beurre
bien.
Salé aussi quand même.
Le premier plat que vous avez cuisiné ?
Je cuisine que des pâtes, moi, alors...
Vous pourrez refaire la recette de pâtes d'Yves de tout à l'heure, voilà, donc absolument. Avec les carottes, ouais, ouais. La coriandre, les olives
mais
et les raisins.
Mais quand j'étais petite, non, je cuisinais des gâteaux au chocolat avec une couche de mousse au chocolat au-dessus. C'était un gâteau très léger.
C'est bien, ça, c'est gourmand, comme on dit.
Et pas chocolaté.
Votre plus beau repas, dans le sens inoubliable?
Alors, il y en a deux, hein, mais le plus ancien, ça serait un soir d'automne chez Michel Bras.
Ah, dans l'Aveyron?
Dans l'Aveyron, avec un coucher de soleil magnifique et puis la cuisine de Michel Bras que je découvrais. Et dernièrement, à la Colombe d'Or avec ma meilleure amie. Cet été, après le confinement, avec ma meilleure amie, Lorraine Jacob, nous sommes fait un petit voyage en amitié qu'on devrait faire plus souvent. On fait des voyages en amoureux, des week-ends en amoureux. Il faut faire des voyages en amitié et nous avons été à la Colombe d'Or dîner
Saint-Paul-de-Vence.
À Saint-Paul-de-Vence. C'était merveilleux.
Là où Signoret et Montand se sont mariés.
Exactement.
Votre pire repas?
Quand c'est moi qui cuisine, en fait.
Oui, donc, parce que vous aimez manger, vous savez bien manger.
Non, mais je vous promets que je ne me flagelle pas.
Mais je sais.
C'est une réalité.
Mais pourquoi vous ne voulez pas passer à l'action et vous faire confiance en cuisine?
Ben, je ne sais pas. Il y a un blocage. Hein.
C'est ça, hein?
Ouais, un héritage, peut-être. Bon, je vous ai parlé des tomates à la provençale.
C'est peut-être ça.
Allez faire un stage dans les cuisines de Yves pendant 15 jours, vous verrez, c'est ramené après.
Quand j'ai joué les émotifs anonymes, je jouais une chocolatière et donc j'ai appris à tabler le chocolat. Et j'ai été avec des grands chocolatiers pour apprendre à tabler le chocolat.
Et ça, c'est un geste précis et technique. Hein.
Ouais, c'était merveilleux d'apprendre et j'ai appris à faire des très bons chocolats.
Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer?
C'est plutôt une boisson. Alors là, je m'adresse à Olivier. C'est le champagne de la cuvée Cristal Rodrorer. Est-ce que c'est vraiment si dingue que ça?
C'est très très bon. Ouais, et puis quand ils sont vieux, c'est encore meilleur.
Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte, Isabelle Carré?
Ah bah, j'ai parlé des piquillos farcis, j'amènerai des piquillos farcis, mais peut-être aussi du fromage, quand même. Parce qu'on ne sait jamais si c'est une île pas française ou quoi, j'aurais vraiment besoin de mon fromage.
Oui, c'est la tradition, le pays
ah
bah
moi,
avec
sans
vous.
Mon fromage, ouais, j'ai du mal.
On en parlait au début de l'émission, hein. Saint-Nectaire, Reblochon par exemple, il y a de jolies chèvres aussi en saison en ce moment, du Morbier. Mmh. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Isabelle?
Alors j'ai parlé d'Irène Jacob, donc il y aurait Bernard Campan. Bah oui, je ne pourrais pas me passer de lui. Gaël Faye, que j'ai rencontré plusieurs fois, qui est vraiment un auteur et puis un musicien merveilleux et un être merveilleux. Philippe Jean, dont je suis devenue l'amie après avoir suivi un de ses ateliers d'écriture, qui m'a relancée, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'écriture au quotidien.
Et quelle relance! Deuxième roman du côté des Indiens.
Voilà, et puis Dorothée Janin, dont j'ai adoré le nouveau livre, L'île de Jacob. Et d'ailleurs, au Pays Basque, Philippe Jean a créé un prix qui s'appelle le prix littéraire Maison Rouge. Et on l'a offert, on l'a donné à Dorothée Janin, parce que son livre est extraordinaire, voilà.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Isabelle?
Et le mot de la fin, si seulement je savais cuisiner.
Mais ça va, on a plein de recettes pour vous hein, depuis le début. Il y a les poires, toutes simples, juste rôties comme ça.
Non mais ça m'a encouragée, hein,
avec
je vous jure.
Avec du jambon.
Hein.
Bon. On a fait vraiment des choses très simples. La lotte qu'on a dégustée tout à l'heure d'Emmanuel Coury du restaurant Les Climats à Paris, vous pouvez la refaire. 10 minutes de cuisson, Isabelle. Mm-hmm. Une lotte rôtie comme une viande avec un petit peu de verveine, des courgettes comme ça et du citron. C'est hyper simple en cocotte.
Oui, je vous promets de vous envoyer la photo.
On veut voir les photos, Isabelle Carré. Merci infiniment d'être venue. En tout
Merci
cas, vous êtes une bonne vivante et une belle gourmande. Du côté des Indiens, votre dernier roman paru chez Grasset. Et puis, on vous voit, pour ceux qui ont la chance d'avoir des places, tous les soirs au Théâtre de la Renaissance, aux côtés de Bernard Campan et de bons comédiens à Paris pour cette belle pièce, La Dégustation. Merci à ma fine équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Le podcast vous attend sur europe1.fr ainsi que les recettes. Et on sera la semaine prochaine avec un inconnu que vous connaissez bien. C'est Pascal Légitimus
qui sera
à nos côtés. Voilà, on l'embrassera pour vous. Soyez prudents, hein, faites le marché, mais faites la cuisine également. Et dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bon week-end sur Europe 1.